Il est 19h sur Radio Campus Paris et c'est la rentrée pour la bouquinerie jeunesse.
Il existe une étagère secrète couverte d'œuvres invisibles aux plus de 18 ans. Cernés d'ouvrages pour les grands, ils en deviennent transparents, sauf à qui garde son âme d'enfant. La bouquinerie jeunesse, un dimanche sur 4, sur Radio Campus Paris.
Et oui, nous sommes très heureux de vous retrouver pour la saison 3 de la bouquinerie jeunesse. Alors bon, pour commencer, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle pour vous qui nous écoutez. Alors, je ne sais pas par laquelle je commence. Je vais commencer par la bonne, allez, quand même. La bonne nouvelle, c'est que toute l'équipe est au complet. Et oui, tout le monde a re-signé pour une troisième saison. Je suis donc avec Léa.
Coucou.
Nathan.
Hello.
Et Christelle.
Salut.
Et bon, bah, la mauvaise nouvelle, c'est que l'émission aura maintenant lieu un mois sur deux, en gros. Un dimanche sur six, si je ne me trompe pas, à peu près, c'est ça. Voilà. Bon, dans tous les cas, vous pourrez retrouver les podcasts, vous pourrez continuer à nous suivre. Pour cette première émission de la saison, donc, la rentrée est déjà un petit peu derrière nous, mais notre esprit est encore un peu en vacances, voilà. Du coup, on voulait traiter d'un thème un peu entre deux, un peu entre le rêve et la réalité, entre l'imaginaire et l'Uchronie, et on a finalement retenu l'idée d'onirisme. Alors, onirique, j'ai été voir ce que ça voulait dire dans le Larousse, quand même. C'est tout simplement relatif aux rêves. Nous allons donc parler d'albums, de romans et de BD qui font rêver ou cauchemarder, peut-être. Nous allons voir ça. Après avoir ouvert la saison 1 avec Anne-Laure Bondou, puis la saison 2 avec Clémentine Beauvais, nous serons pour ce premier épisode de la saison 3 avec Fabrice Collin, qui vient de sortir un roman aux éditions Talents Hauts, un roman ado qui s'appelle « La bonne aventure » et qui va nous emmener dans un Paris onirique. On le retrouve tout à l'heure. Mais avant, un petit point vacances, très important quand même, pour cette reprise. Qu'est-ce que vous avez lu cet été? Est-ce que vous avez eu des coups de cœur ou bien des déceptions Léa?
Alors moi, je fais un peu un mea culpa. Cet été, j'étais très occupée. J'étais très occupée à lire des choses que des amis m'ont envoyées. Et du coup, j'ai pas eu trop le temps de lire des choses pour moi. Mais j'ai quand même lu un roman qui a fait grand bruit sur les réseaux sociaux. Alors, ce n'est pas un roman jeunesse, mais c'est Le mur invisible d'une autrice allemande qui s'appelle Marlène Open. Je sais plus son nom de famille. Mais en tous les cas, c'était très chouette. C'est Digli qui en a parlé sur les réseaux sociaux. Une autrice dont Christelle avait parlé l'an dernier, voilà. C'était un super roman.
Et toi, Christelle, alors?
Moi, j'ai lu plusieurs trucs, des trucs pas ouf. Je ne vais pas m'étendre dessus là tout de suite. J'ai relu, petit spoiler pour la suite de l'émission, le premier tome de À la croisée des mondes. En préparation de la série qui arrive sur HBO. Oui.
Super, bah, moi j'ai relu les trois tomes, la série, à fond.
Comme l'an dernier où j'avais lu Brexit Romance à voix haute pendant les trajets en voiture des vacances, j'ai fait pareil avec le tome 1, donc ça prend un peu plus de temps.
Et on a hâte de voir la nouvelle série. Et toi, Nathan?
Moi, j'ai lu, j'ai fait une petite incursion en BD avec une BD que tu connais peut-être, Léa, qui s'appelle Stand Silence, un truc dans ce genre.
Stand Silence?
Ouais. Enfin, c'est une BD chez Akileos.
Je connais bien cette maison d'édition.
Une BD post-apocalyptique qui se passe dans les pays scandinaves. J'ai un grand amour pour les pays scandinaves. Okay. Et c'est un truc de dingue. Enfin, c'est une BD trop trop géniale. Il y a deux tomes, il y en a d'autres qui sont à venir. Et je vous recommande à fond, quoi.
Super. Okay. Voilà, quelques petits conseils de lecture avant de commencer. Donc c'est parti pour ce premier épisode de la saison où nous allons rêver.
La bouquinerie jeunesse, un dimanche sur quatre. Sur Radio Campus Paris.
Et pour commencer, on retrouve donc Fabrice Collin. Fabrice Collin qui est sélectionné pour le prix vendredi, comme l'avait été Anne-Laure Bondou et Clémentine Beauvais, que nous avions aussi invités. Comme quoi, on les invite avant qu'il y ait les sélections. Comme quoi, on a le nez fin. On retrouve donc Fabrice Collin. Eh bien, bonjour Fabrice et merci d'avoir accepté cette interview.
Mais bonjour, merci de m'avoir invité.
Alors, Fabrice, tu es auteur de polars, de littérature de l'imaginaire, en adulte, en jeunesse, pour la presse, directeur éditorial. Mais en fait, tu as tout fait. J'ai même découvert que tu étais décédé fictivement en 2005.
Ouais.
C'était pour les besoins de Comme des fantômes, un recueil de nouvelles.
Mais ça va mieux maintenant.
Et aujourd'hui, tu viens nous voir pour un roman jeunesse, La bonne aventure, qui est chez Talents Hauts. Est-ce que tu peux nous dire tout simplement en quelques mots de quoi est-ce que ça parle ?
Disons que c'est une histoire d'amour en premier lieu, mais entre deux personnes qui ont un petit peu du mal à exprimer et à vivre leurs sentiments, donc qui vont se chercher et qui vont finir par se trouver alors qu'ils habitent l'un au-dessus de l'autre dans le même immeuble dans un Paris qui est un Paris légèrement décalé par rapport au Paris qu'on connaît, qui est dans ma tête un Paris des années 30 ou 40 ou 50, on ne sait pas trop, et voilà, dans une ambiance un petit peu onirique.
C'est ça, donc il y a Ombline qui est bibliothécaire, qui a sa petite vie bien rangée avec ses perruches, et Pierre, son voisin, qui est acrobate, qui partage son appartement, lui, avec son grand-père embaumé.
Ouais.
Et donc, ils ont effectivement chacun un peu leur peur à affronter pour pouvoir se rencontrer, on va ouais. dire. Je me demandais aussi comment était né ce roman parmi... Tous les romans auxquels tu peux penser.
Celui-ci, il a une histoire un peu particulière parce qu'il est né d'une idée de base assez ténue, qui était cette idée-là de deux personnages un petit peu à côté de leur pompe et qui vont finir par se rencontrer. Mais contrairement à ce que je fais pour 99% de mes livres, celui-ci, je l'ai laissé avancer tout seul, quoi. C'est-à-dire que j'avais les situations de départ, j'avais ces deux personnages et je me suis dit, bon, laissons-les vivre leur vie, puis on va voir ce qui va se passer. Et c'est pas de cette façon que je procède habituellement. En temps normal, je fais un plan. Et je sais, je maîtrise à peu près tout, 90%. Là, je maîtrisais peut-être 5%. Quoi. Donc, c'était d'abord une expérience d'écriture. Je voulais voir si j'étais capable de faire ça, c'est-à-dire de commencer un livre sans savoir où il allait aller, dans quelle direction.
Et est-ce que ça a été difficile à finir, du coup, ou est-ce que...
Quand on procède de cette façon-là, hein, moi, je pense qu'il y a deux sortes d'écrivains. Il y a vraiment ceux qui font des plans, qui contrôlent tout, et puis il y a ceux qui écrivent au fil de la plume. On est plutôt l'un ou l'autre. Bon, j'ai l'impression que quand on appartient à la deuxième catégorie des gens qui vont se laisser aller, de toute façon, une fois qu'on a fini un premier jet, alors on a été grisé par le fait de l'écrire sans savoir où on allait, ce qui est plus marrant que de faire un plan. C'est un peu comme arriver dans un pays où vous avez déjà réservé tous les hôtels ou rien du tout. Bon, c'est sûr que c'est plus marrant d'aller à l'aventure, mais c'est plus risqué aussi. Pour un livre, quand on l'a terminé, alors que on a quasiment tout improvisé, normalement, il est bancal quand on le termine. C'est pour ça qu'on fait un plan. Hein. Généralement, c'est pour pas subir ce genre d'avanie. Moi, je me suis retrouvé avec le livre fini. Je me suis dit, bon, maintenant, il faut que je le reprenne du début pour arriver à structurer tout ça et à couper les branches, quoi. Arriver à faire quelque chose qui tienne la route.
Voilà. Peut-être que sur ce point, la maison d'édition t'a un petit peu aidé, parce que ce roman, il est publié chez Talent Haut. Est-ce que tu peux nous raconter un peu le parcours de ce manuscrit ou ta rencontre avec l'éditrice? Est-ce que c'est ton premier chez eux?
Ouais, alors c'est assez particulier ce livre, parce que en fait au départ il était né d'une discussion avec un autre éditeur. Et il y a eu plusieurs allers-retours avec cet éditeur, un manuscrit qui leur est arrivé entre les mains, sur lequel ils ont fait des remarques. Moi, j'ai repris ma copie comme d'habitude. Puis au bout d'un moment, je me disais, on est bloqué, on n'arrête pas de faire des allers-retours. Et j'ai l'impression qu'eux ne sont pas contents. Et surtout, ça, ce qui est assez rare, c'est que je ne sais pas ce qu'il faudrait faire pour qu'ils soient contents et que je le sois aussi. Donc, on était un peu dans une impasse. Et j'étais au Salon du Livre l'année dernière. Donc, c'est quelque chose qui se fait assez rapidement. Hein, et je suis passé sur le stand Talent Haut, dont j'aime beaucoup le catalogue. Et j'ai rencontré l'éditrice et je lui ai dit, au fait... Moi, j'ai un manuscrit, voilà, c'est pas du tout... c'est un truc qui me tient à cœur et je sais pas trop quoi en faire. Je suis un peu perdu par rapport à ça parce que j'ai plus trop de recul. Quand un éditeur est pas content, on perd assez vite ses moyens. On se dit, ça se trouve, il y a rien à faire avec ce texte. Et je dis, voilà, si vous avez du temps à perdre, moi, j'aimerais bien que vous jetiez un œil. Et l'éditrice Laurence Faron a été très sympa. Elle a dit, oh, oui, pas de problème, je vais faire ça. Bon. Et puis, elle m'a rappelé ou elle m'a écrit... vraiment quelques jours plus tard en me disant nous on aimerait beaucoup faire ce livre, quoi. Donc c'était chouette, c'était un petit peu inattendu, un peu à l'image du livre, quoi, finalement, qui est placé sous le signe un peu la surprise. Et c'est comme ça que je suis arrivé chez Talon Haut. Ensuite, il y a eu des allers-retours aussi, mais là, qui étaient constructifs, et je comprenais quel était le but à atteindre. Donc ça s'est passé de façon très fluide et très agréable.
Oui, il est question un peu de surprise dans ce livre et aussi un peu de hasard. Et ça m'a un peu fait penser à cet autre livre que tu as écrit qui est La vie extraordinaire des gens ordinaires, où il y avait aussi un peu des questions de hasard. Du coup, est-ce que c'est un thème qui te parle, ce thème du hasard, du loto? Est-ce que tu joues au loto?
Non, je ne joue pas au loto. C'est l'impôt du con et j'en suis pas encore là. Mais c'est une vraie question parce que dans une histoire d'amour, par exemple, quand voilà, vous rencontrez quelqu'un,
toujours
vous êtes bien avec. Bon, il y a eu toute une part de hasard. Vous n'auriez pas traversé la rue à tel moment, vous n'auriez pas rencontré tel copain, vous ne seriez pas inscrit à telle école, etc. Bon, vous ne l'auriez jamais rencontré. Mais surtout, on peut se demander, on peut se dire, est-ce que on était destinés à se rencontrer, à faire un bout de chemin ensemble, ou est-ce que il y a une myriade d'autres histoires possibles? Quand vous êtes avec quelqu'un, finalement, même si vous êtes bien, vous pouvez aussi vous dire, tiens, je pourrais être avec une autre personne. Ces interrogations qui ne taroutent pas spécialement par rapport à ma vie personnelle qui est très bien comme elle est, mais de façon générale, c'est vrai que ce soit pour des questions d'amour ou même des questions plus tragiques, d'accidents, de morts, etc., c'est aussi quelque chose qui se pose comme question, quoi. Tiens, si j'avais pas été à ce concert, si j'avais pas rencontré telle personne, si j'avais été libre ce jour-là. Moi, j'ai deux beaux-frères qui étaient au Bataclan et j'aurais dû aller au concert avec eux, par exemple, parce qu'on allait souvent en concert ensemble. Et puis, je sais pas, ce jour-là, ce groupe-là, ça me branchait pas trop, donc j'ai dit, bon, non, là, je passe mon tour. Voilà. Ce genre de choses, ça me, ouais, c'est sûr que ça interpelle en tant que romancier sur la trame des possibles, des potentialités, quoi.
Alors, pour revenir sur le roman, donc, tu disais les deux personnages principaux sont effectivement un petit peu effacés, en tout cas pas très sûrs d'eux, en pleine recherche d'eux-mêmes. Et pourtant, ils sont entourés de personnages hauts en couleur, au caractère bien trempé. Alors, il y a la Ouria, qui est la responsable d'Ombline, responsable un peu comme toutes les responsables. Il y a Marc-André, que moi j'aime beaucoup personnellement. Ouais. Angel, les collègues d'Ombline. Il y a Monsieur Fitzpatrick, bien sûr, l'homme à la tête de crocodile, ou encore Égypte. Et alors, d'où viennent tous ces personnages? Est-ce que c'était volontaire qu'ils soient très colorés, assez forts, on va dire, comparés aux deux héros?
Ouais, il y a une espèce... Enfin, quand on... J'ai découvert ça, justement, en lâchant un petit peu la rampe, quoi. Je me suis dit, voilà, les gens... Enfin, tout est possible. Les gens ces personnages vont croiser ou rencontrer... autant se lâcher. Comme c'est des gens, je ne sais pas encore quelle fonction ils vont avoir dans le livre, je peux commencer déjà par en faire des caractères très particuliers, enfin, en faire des gens, comme tu dis, hauts en couleur, et puis ensuite on verra où ça nous mènera. Mais oui, il y avait la volonté pour chaque personnage de soit physiquement, soit... psychologiquement, d'en faire des figures qui marquent les esprits, quoi.
Alors, Fabrice, tu as écrit des dizaines et des dizaines de romans. J'imagine qu'on met toujours un peu de soi dans un texte. Alors, je me demandais, est-ce que tu te balades sur les toits de Paris la nuit? Est-ce que tu étais un jeune homme timide? Est-ce qu'il y aurait une anecdote ou quelque chose que tu as vécu et, par exemple, je sais pas, tu as hésité longuement avant d'aborder telle ou telle personne, ou est-ce que tout n'est vraiment qu'imagination?
C'est difficile à dire. Moi, quand j'écris un livre, si c'est tiré vraiment d'une histoire personnelle, je le sais avant et j'en ai conscience. Là, c'est pas le cas. Après, quand on revient sur ce qu'on a écrit, on dit toujours ah, il y a ceci, il y a cela, voilà. Mais bon, là, j'ai renoué un petit peu avec la personne que j'étais quand j'avais une vingtaine d'années. Moi, j'habitais en banlieue parisienne et comme beaucoup de banlieusards, je fantasmais sur Paris. Alors, je faisais mes études à Paris, mais il m'est arrivé plusieurs fois d'aller boire un coup avec des copains, puis de louper le dernier métro, de ne pas pouvoir rentrer chez moi. Et ça m'est arrivé d'être à la rue, quoi, quasiment.
Il n'y avait pas d'Uber à l'époque.
Non, il n'y avait pas d'Uber. J'étais fauché, je n'avais pas de quoi me payer un taxi. Mais quelque part, j'étais très content aussi, comme ça, de glander dans Paris. Mais je n'étais pas tout seul, généralement. Et j'ai souvenir, comme ça, de virer avec des copains jusqu'au premier métro, quoi, à se balader à 1h, 2h, 3h, 5h du matin dans Paris. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu, qu'on fait plus trop par la suite, quand on a une vie plus rangée, plus organisée, et puis quand on habite à Paris. Mais ça m'arrive encore de temps en temps de rentrer, de soirée, enfin, vers 2-3 heures. Vraiment ce côté Paris la nuit qui devient vraiment une autre ville avec des gens différents. On n'a même pas besoin d'être dans un état d'ébriété spécifique. Hein. Je veux dire, la ville devient quelque chose d'autre. Il y a eu des émissions de télé là-dessus avec des gens qui se baladaient caméra au point, notamment les dimanches soirs à minuit, 1h du matin. On commence à rencontrer des gens bizarres et chaque personne est souvent porteuse d'une histoire, quoi.
Paris, c'est amusant, c'était le thème d'une de nos dernières émissions. Et effectivement, on aurait pu t'inviter à cette occasion-là. Donc, ton roman, comme on vient de le dire, se passe dans la capitale française, mais ce n'est pas exactement le Paris qu'on connaît. On pourrait presque le croire, mais il y a quelques détails qui nous souffrent que nous sommes ailleurs. Est-ce que tous ces détails, les noms des places, des célébrités, des villes, ils te sont venus facilement ?
Oui, alors au départ, ce roman devait se rattacher aussi à un autre projet, mais qui est peut-être pas, enfin qui va peut-être se poursuivre d'ailleurs chez Talon Haut, qui était une idée qu'on était dans un monde parallèle et que ce monde parallèle était lié au vrai monde, c'est-à-dire au nôtre. Donc là, en fait, on est dans le reflet de Paris. Bon, par la suite, j'ai abandonné, enfin non pas l'idée, mais j'ai pas fait de cette idée la clé de voûte du livre. C'est pas important, c'est anecdotique. Bah, à partir de là, on se dit voilà, c'est un décalage, un pas de côté. C'est Paris, c'est pas vraiment Paris. Bon, il y a une place qui s'appelle Napoléon IV. Bon, il n'y a pas eu de Napoléon IV. On a tout de suite compris qu'on n'était pas dans le vrai Paris. Et en même temps, il y a plein de détails qui nous disent il n'y a pas de doute, enfin, c'est quand même là. Et c'est peut-être une place qui existe réellement, mais simplement qui a changé de nom, quoi. Donc, c'est pas très compliqué de s'amuser avec ce genre de truc. J'avais pris 3-4 notes en me disant, tiens, historiquement, il s'est passé ça, ça et ça, ce qui fait que bah, les rues et les places vont être nommées de telle ou telle façon, mais ça n'a pas été plus loin que ça pour l'instant.
Alors, je me suis renseignée un petit peu sur les inspirations du roman que tu cites. Y a Ada ou l'ardeur de Vladimir Nabokov, Rue des Maléfices de Jacques Yonnet, et effectivement, j'ai trouvé des clins d'œil dans La Bonne Aventure. Il y a par exemple, donc dans Ada, son amant, il était acrobate. Il y a donc, après, bien sûr, le Paris onirique. D'ailleurs, ça m'a vachement donné envie de lire Rue des Maléfices. Ça a l'air super.
Ouais, c'est un très beau livre.
Du coup, je me demandais, est-ce que ces références, c'est volontaire ou est-ce que c'est une fois que tu as écrit le livre que tu t'es rendu compte que tu y avais
mis ça ? C'est ça, c'est la deuxième solution. C'est ça, ces informations, tu les as trouvées, je pense, dans le communiqué de presse.
Oui. Bon.
Et on me demande, en fait, moi, d'écrire sur le fait d'avoir écrit ce livre, ce qui est toujours un peu particulier. c'est un exercice auquel on se prête volontiers, hein, c'est pas un souci. Mais disons que moi, je suis assez instinctif dans l'écriture. C'est pas s'il y a du symbolisme ou des choses comme ça, c'est vraiment
à mon corps défendant. En fait.
Non, je le découvre après. Mais c'est bon, je pense que c'est ce vieux truc de voilà, les livres s'écrivent à travers les personnes, presque malgré elles, et par la suite. On est ce qu'on est, on est un filtre avec nos références, nos idées, nos amours, etc. Et quand on voit ce qu'on a écrit, bah, on est obligé de retrouver des traces de ce que, voilà, de ce qu'on est, de ce qu'on a fait, de ce qu'on a vécu, de ce qu'on a aimé. Et donc, ces références-là, c'est des choses qui m'habitent, mais vraiment profondément. Quand j'écris un livre, je ne me suis pas dit, tiens, je vais faire une référence à tel ou tel truc.
Ça se peut, il y a des...
Mais elle est là. On peut, ouais, ouais.
Il y a des auteurs qu'on a reçus qui font vraiment exprès de mettre des références, de voilà, c'est...
Non, il y a eu un livre pour adultes où j'ai fait ça, qui s'appelle Dreamericana, et qui était aussi où il y avait plein de références à Nabokov, mais là, elles étaient codées, il y avait des anagrammes, il y avait des trucs comme ça, et un connaisseur, il y retrouvait ses petits, quoi. Là, c'est vraiment le flux d'inspiration. Si on me demande, bah, finalement, à quoi tu rapproches ça, de quoi tu rapproches ça dans ce que tu as aimé, bah, ce sont ces titres-là qui me sont venus à l'esprit. Quoi.
Ok, et ben super. Du coup, on va se retrouver dans un petit instant pour la suite de l'émission.
Et ben, volontiers.
Merci à Fabrice Collin d'avoir été avec nous. On rappelle donc que La Bonne Aventure est chez Talent Haut. Et maintenant, on va donc partir rêver avec un album que j'ai pas du tout lu, j'avoue. C'est Hector et mes bêtes sauvages et c'est Nathan qui nous en parle.
Exactement, alors c'est un album qui vient juste de sortir aux éditions du Seuil. Une chose est sûre selon moi, l'onirisme puise dans notre imagination et notre imagination puise sa source jusque dans notre enfance. Je pense qu'aucune de vous ne m'en contredira, d'autant plus que nous sommes autour d'une table de passionnés de littérature jeunesse. L'imagination se construit lorsqu'on est enfant, comme un monde d'aventure et un vaste terrain de jeu, mais aussi comme un refuge, un rempart contre le monde réel ou un endroit rassurant où trouver des réponses pour l'affronter. C'est exactement ce monde onirique de l'imagination dans lequel vous invite Hector et les bêtes sauvages de Cécile Roumiguière et Clémence Monet.
Alors, de ce que j'ai regardé un petit peu, cet album a pour thème l'arrivée d'un nouvel enfant dans la famille, il me semble.
Effectivement, c'est le thème principal de l'album, puisqu'on y suit l'histoire d'une petite fille qui n'est plus si petite que ça. Elle a un sac de championne de karaté pour aller à l'école, une vraie palette de peinture qui tache les doigts et un vélo sans petits trous, comme l'écrit Cécile Roumiguière. Seulement voilà, il y a bien un bébé dans la famille et il vient tout juste d'arriver. C'est son petit frère. Lui a des doudous tout neufs, des sourires émerveillés, des tétés sucrés et toute l'attention. Notre héroïne en fait des cauchemars, se débat avec des poignées de questions dont elle ne sait que faire et assurément se sent seule et délaissée. C'est là qu'elle retrouve Hector, son doudou d'enfant, une grosse peluche rouge qui va la réconforter et surtout l'aider à avancer.
Alors c'est un album qu'on peut conseiller à tout enfant qui va avoir un petit frère ou une petite sœur ?
Ouais, les éditions du Seuil Jeunesse le conseillent à partir de 3 ans. Et ses illustrations douces et le thème qui effectivement parle à de nombreux enfants le rend accessible jeune. Par contre, c'est un album au texte assez long. Cela rend l'ouvrage riche et nuancé, mais demande un temps d'écoute et de concentration pour le petit lecteur. Mais à mon sens, c'est aussi ce qui fait la force du livre. C'est un texte exigeant, tout du moins travaillé, avec une construction remarquable et un style soigné. Aussi bien accessible qu'immersif, le texte est narré d'un point de vue original puisque c'est le doudou de l'héroïne qui raconte. L'album débute sur un plan de la chambre dans lequel on distingue le doudou dans un tiroir, avant de nous amener sur une image de l'enfant qui fait une sieste. L'illustratrice nous plonge alors dans ses rêves et cauchemars. On navigue entre les pensées de la petite fille, le point de vue du doudou, des dialogues endiablés, des péripéties oniriques, un flashback vers la grossesse. Bref, l'autrice Cécile Roumiguière use de tout un tas d'astuces pour rendre l'histoire vivante et incarne et plonge ainsi le héros, les lecteurs, pardon, dans les aventures de Hector et de sa petite maîtresse.
Justement, est-ce que tu peux nous parler un peu de ces aventures oniriques, puisque c'est le thème, que vont vivre les deux personnages ?
Ouais, en fait, c'est de chagrin que la petite fille, dont c'est l'histoire, remonte dans sa chambre, non sans avoir tiré la langue à son petit frère, et retrouve Hector, son doudou, qui lui propose son aide. Elle lui demande ce qu'il pense de bébé, et lui avoue que les cris de son petit frère, qui l'effraient dans la nuit, lui font penser à des bêtes sauvages. Et disant cela, la petite fille déroule un fil décousu du doudou et en fait un filet pour attraper les bêtes sauvages. Et ils s'enfoncent dans une forêt profonde pour les affronter, et la cabane du jardin devient celle du petit chaperon rouge. On voit les outils devenir d'effrayantes ombres dans l'illustration. Les cailloux alentours sont ceux de petits poussés, et le fil rouge déroulé par la petite fille devient un pont, tandis que Hector dessine des ours en peluche, des boîtes à musique, du feu ou des baisers de bébé. Et c'est là, dans le jeu, dans l'imagination, dans les souvenirs et la parole, que les mots s'ouvrent et que la tristesse est dite par la petite fille. Et face à l'immensité de cette tristesse, raconte Hector, je me fais plus grand, je me fais nuage, et la soulève dans le ciel ouaté. Alors ensemble, ils décident de faire naître une grande sœur.
C'est un album qui a l'air assez émouvant finalement.
Oui, l'autrice ne ment pas sur la tristesse de la petite fille, mais aussi sur sa colère, sur sa jalousie, sur son amertume. Cette histoire, effectivement, est traversée comme des flèches par des sentiments très différents, négatifs et réalistes comme ceux que je viens de dire, mais aussi beaucoup plus lumineux. C'est un album pour s'évader, pour apprendre, pour aimer. Là, sur les épaules de Hector, la petite fille n'a plus peur. Elle sait qu'elle ne sera jamais seule. Elle voit bien qu'elle est grande et forte, et du coup peut-être assez pour protéger un petit frère. Finalement, je trouve que c'est un album qui exprime à merveille la vivacité de l'enfance. Car de la colère, notre petite héroïne passe à la tristesse, puis s'endort, et enfin, rassurée et fatiguée, se réveille d'un bond, pleine d'idées pour s'occuper de ce petit frère et pour l'aider à grandir.
Alors, avoir l'album là en studio, on vous mettra la photo. J'ai l'impression que c'est un album qui correspond très bien à l'enfance, grâce notamment à ses illustrations.
Effectivement, les illustrations sont magnifiques et se marient à merveille avec le texte. Aussi colorées et vivantes que des dessins d'enfants, elles sont pourtant précises et soignées, comme l'est le texte de Cécile Roumiguière. Elle croque avec force et sensibilité les émotions de la petite fille, et les emporte, elle, Hector et le lecteur, dans de rocambolesques aventures. Mais il y a aussi une farandole de détails fabuleux qui se glissent dans les pages, permettent à l'enfant qui écoute l'histoire de se prendre avec cette grande sœur dans l'aventure qu'elle vit. Et surtout, l'ensemble est d'une infinie douceur, tant dans les couleurs que dans le trait, qui fait de cet ouvrage un livre rassurant, un véritable cocon où trouver des réponses, ou en tout cas un refuge. Et pour les plus grands lecteurs, ou ceux sans petit frère ni grande sœur, et même les curieux en tout genre, soyez sûrs de trouver là une lecture doudou. Du genre de celle qu'on relit quand on a un coup de blues ou dans lesquelles on puise pour trouver une dose d'imagination. Car cette histoire se laisse aussi lire entre les lignes et délivre un brin de nostalgie. C'est un album qui dit que l'enfance avec poésie et candeur, qui dit l'enfance avec poésie et candeur, un album qui dit que même quand on est grand, on a le droit de rester un tout petit peu bébé, et un album qui dit qu'on ne perd jamais, je cite, le souvenir de l'enfance, celui de la douceur des jours parfaits et des chagrins qui font grandir. Alors une chose est sûre selon moi, le souvenir de l'enfance, il est là, dans Hector et les Bêtes Sauvages.
Hector et les Bêtes Sauvages, donc, c'est un album de Cécile Roumiguière et Clémence Monet, et c'est au Seuil Jeunesse. Eh bien, c'est maintenant l'heure de notre grande bataille, du duel de l'émission, nos livres contraires. La question aujourd'hui, c'était quel est l'univers jeunesse qui fait le moins rêver ?
Avis à tous les allergiques à la poussière, est-ce qu'il y en a autour de la table ?
Non.
Mais je suis sûre qu'il y en a parmi nos auditeurs. Sur ce coup-là, vous allez forcément être d'accord avec moi, puisque dans cette battle, je vais prendre votre défense en prouvant que l'univers créé par Philippe Pullman dans À la croisée des mondes est vraiment celui qui fait le moins rêver, et pas seulement parce que c'est le plus poussiéreux.
Je vois que tu as recyclé tes lectures de vacances, Christelle.
Ouais, je suis comme ça.
Tu veux faire dans les classiques ? Très bien. Moi, je vous emmène en Terre du Milieu pour vous prouver que l'un des ouvrages fondateurs de la fantasy, Le Hobbit, qui a fait rêver des générations de petits geekos, est en fait une grosse arnaque.
En parlant d'arnaque, eh bien, il y en a une pas mal dans À la croisée des mondes, puisque dans le monde de Lyra, l'héroïne, chaque être humain a un démon, c'est-à-dire une extension de son âme, visible sous la forme d'un animal qui correspond à sa personnalité. Si votre démon, c'est une panthère blanche, comme Lord Asriel, un singe doré, comme Madame Coulter, ou à la limite un corbeau, comme le doyen de Jordan College, bon, ça passe, ça peut même être plutôt sympa, plutôt classe. D'ailleurs, on a tous imaginé en lisant « Moi, mon démon, ça serait un renard, un paon, un loup, trop classe ». Mais je vous rappelle un détail non négligeable, on ne choisit pas à quoi ressemble son démon. Vous pourriez très bien vous retrouver avec un démon en forme de putois, ou avec une blatte, ou pire, avec un pigeon. Comment vous gérez le fait que tous ceux qui vous rencontrent savent d'emblée que votre animal totem, c'est un pigeon parisien borgne et boiteux ? Et d'ailleurs, comment vous vivez le fait d'avoir l'épaule sans cesse couverte des fientes du dit pigeon ?
Ah là là, sacrée bestiole. Heureusement que j'ai pas honte que mon démon soit une poule. Et les nains SDF, qui constituent l'essentiel des personnages de mon roman, ne semblent pas non plus trop incommodés par leurs amis les puces, qui doivent certainement partager leur quotidien vu leur hygiène douteuse et la longueur de leur barbe. Bah quoi ? Si on met de côté les chansons épiques, la reconquête de trésors perdus et les blagues sur les poils de pied de Bilbo, faut regarder les faits en face. Les 30 premières pages de cette histoire sont archi angoissantes, les amis. Vous imaginez ? Vous êtes un paisible quarantenaire, votre famille relou vous fiche la paix et votre frigo est rempli. Vous avez taffé dur toute votre vie pour ça et vous aimez bien votre petit confort. D'un seul coup, alors que vous fumez tranquillou votre pipe du devoir accompli, une horde de nains puants et un peu bourrés vient vous chanter dans les oreilles, bouffer l'intégralité de votre garde-manger et foutre le boxon dans votre nid douillet pour finir par vous traîner dehors. La faute à qui ? À votre vieux pote le magicien chelou mais rigolo ? Franchement, vous auriez dû écouter vos cousins et le foutre dehors, ça vous aurait épargné le traitement anti-puce sur vos rideaux.
C'est vrai qu'il se tape un peu l'incruste, le sorcier, les nains, mais bon, au moins il chante bien. Mais ne croyez pas que dans À la croisée des mondes, vous allez pouvoir rester pépère au coin du feu tout seul dans votre collège d'Oxford. Loin de là. Non seulement vous ne pouvez pas cacher votre personnalité de pigeon parisien, mais vous ne pouvez rien cacher du tout. Mise en situation. Votre collègue arrive au boulot avec une nouvelle coupe de cheveux vraiment, vraiment indescriptible. Vous faites semblant de n'avoir rien remarqué. Et là, Carole de la Comta passe et dit « Oh, Michel, ça te va super bien cette nouvelle coupe !» Voilà, c'est trop tard. Michel se tourne déjà vers vous pour vous demander votre avis. Vous êtes acculé. Sauf que vous l'aimez bien, Michel, vous n'avez pas envie de lui faire du mal. Donc vous ouvrez la bouche pour fournir une réponse gentille qui ne soit ni totalement un mensonge, ni totalement la vérité. Sauf que soudain, une gamine blonde que vous n'avez jamais vue déboule dans le bureau avec une espèce de grosse montre dorée dans la main et s'écrie « Attention, elle va vous mentir, elle déteste votre coupe de cheveux. Elle trouve même que ça vous donne l'air d'avoir 10 ans de plus et que vous ressemblez à Nadine Morano. Je sais, c'est la laitiomètre qui me l'a dit. » Voilà, ambiance de bureau foirée, c'est foutu pour la semaine, Michel va vous faire la gueule pendant des jours. Tout ça à cause d'une gamine qui possède une boussole indiquant la vérité. Merci Lyra, mais franchement la prochaine fois, on se passera de tes services.
Ah ça c'est sûr qu'aujourd'hui c'est le cauchemar d'être enfermé dans un bureau toute la journée, on en sait quelque chose autour de cette table. Quoi de mieux en ces temps de greenwashing qu'une belle balade dans la forêt ? Ah, les forêts de fantasy, c'est le comble du retour de la nature aux choses vraies. Tu rencontres des elfes gracieux, tu te pâmes devant de délicates fleurs, tu t'émerveilles de la magie que produit l'endroit. Dans le Hobbit, bah t'as même pas le temps d'en profiter en fait. C'est le GR20 de l'enfer, option escalade d'arbres géants, ruisseaux empoisonnés et attaques sournoises d'elfes plus hargneux et chevins que des corses. Le comble, bah j'arrive pas à choisir entre l'araignée géante et le canyoning en tonneau. Franchement, Christelle, tu préfères être recouverte d'une toile gluante et accrochée dans un arbre pour suffoquer lentement, ou bien te faire balloter dans ton propre vomi sur des kilomètres de torrent ?
Le dilemme est cornélien, je l'avoue. Mais je crois que je préférerais me faire balloter dans mon propre vomi et être recouverte d'une toile gluante plutôt que d'être à ta place et d'avoir insulté les Corses dans ma chronique. Avec un peu de chance d'ailleurs, je pense que je vais gagner cette battle par KO puisque des gens cagoulés risquent d'entrer là, de faire éruption avant la fin et d'emmener Léa pour la torturer à coups de saucisson de sanglier. Bref, je vais donc terminer en toute tranquillité. Prenez tout ce qui ne vous fait pas, mais alors vraiment pas rêver dans notre monde. Hein. Bah, par exemple, voilà, des dauphins écorchés, des raimentas étouffés, des gens qui se font tuer parce qu'ils n'ont pas la bonne couleur de peau, des enfants réduits en esclavage pour fabriquer nos portables, etc. etc. C'est bon, vous l'avez bien en tête là. C'est bon, vous l'avez bien.
C'est bon.
Eh bien, j'ai une super nouvelle. C'est inclus en bonus dans À la croisée des mondes. Eh oui, comme son nom l'indique, il n'y a pas que le monde de Lyra dans cette série qui est déjà bien pourrie. Il y a tous les univers possibles reliés les uns aux autres, y compris le nôtre. Alors, une planète qui part en cacahuète à l'infini dans tous les multivers, ça vous fait pas rêver ?
Moi, j'adore quand ça part en cacahuète, Christelle. D'ailleurs, qui n'aime pas ça ? Qui n'aime pas quand c'est la bagarre ? Qui ne s'est pas imaginé héroïque au beau milieu d'un champ de bataille ? Bah ouais, ça sert à ça aussi, la fantaisie. Eh ben, imagine. Dans Le Hobbit, t'as parcouru la moitié de ton pays à pied en te faisant cracher dessus par toutes les espèces qui l'habitent. Du feu, de la salive, Gollum postillonne, hein, désolé. Tout ça dans l'espoir de restituer un trésor à des pingres de nains qui passent leur temps à s'engueuler depuis 300 pages. Et là, tu y es enfin, la guerre, la vraie, celle dont on parle depuis longtemps et qui va te permettre d'évacuer toutes tes frustrations en tapant frénétiquement sur des gobelins à la noix. Tu t'élances, l'arme au poing, et ben non, t'as pris un coup sur la tête, en fait, il y a un fondu au noir, ciao les nazes. La frustration ultime ! Ce foutu fondu au noir est le big bang de toutes les batailles épiques qui sont advenues ensuite dans la fantasy, c'est moi qui vous le dis.
Bravo les filles, merci beaucoup. Eh bien, on va pouvoir procéder au vote. Nathan, qu'est-ce que tu en penses ?
Encore une fois, c'était un duel effréné. Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça. Mais je vais donner mon vote à Christelle. Parce qu'elle a réussi à me convaincre, malgré le défi.
Mais tu n'as pas lu, je crois, À la croisée des mondes.
Si, j'ai lu le premier tome. Je me suis rattrapée depuis la première saison.
Waouh, bravo.
Bon, il m'en reste deux.
Mince, ben moi je voulais voter pour Léa du coup, qui a réussi bien à me convaincre pour, avec le Seigneur des Anneaux, disons le Hobbit plutôt, donc oui. Cet univers-là. Du coup Marion, est-ce que tu veux venir départager les filles ?
Alors c'est très compliqué, mais je vais, je pense, donner mon vote à Christelle, parce Merci. Que j'avoue que je préférerais quand même me retrouver dans le monde du Hobbit que...
D'accord.
Vous êtes le lobby des Corses, c'est ça ?
Je t'avais dit que ça te retomberait sur le coin de la figure.
Merci beaucoup les filles. On passe maintenant à la chronique roman avec Christelle qui va nous parler d'une auteure dont elle a déjà parlé, il me semble, une fois.
Eh oui, je vais vous parler de Aurélie Wallenstein, puisqu'aujourd'hui, donc, vous l'avez compris, on parle dans cette émission de l'espace qui se situe entre le rêve et la réalité. Mais dans cette chronique, moi, je vais plutôt vous emmener dans un cauchemar issu de notre réalité. Puisque je vais vous parler de Mère morte d'Aurélie Wallenstein, comme je l'ai dit, qui a été publiée aux éditions Scrinéo en mars 2019. Alors qu'est-ce que ça raconte ? Eh bien, dans un futur indéterminé, notre planète est complètement ravagée par le réchauffement climatique, les marées noires, la surpêche, plein de choses joyeuses.
C'est sympa.
Vous allez voir, elle est super joyeuse, ma chronique. Bon, c'est simple, il n'y a plus d'eau. Les mers, les lacs, les océans, tout s'est évaporé, tout simplement. Et l'humanité avec eux. Il ne reste qu'un bastion au milieu du désert où vivent quelques centaines de personnes retranchées dans une forteresse.
Dans une forteresse ?
Ouais.
D'accord, mais du coup, c'est pour se protéger de quoi qu'ils ont construit une forteresse s'il n'y a plus qu'eux sur la planète ?
Eh bien, pour se protéger des fantômes. En fait, les êtres humains ont tellement maltraité l'océan que les animaux marins morts reviennent se venger des tortures qu'ils ont subies. Et régulièrement, on ne sait pas trop quand, mais généralement à quelques heures ou quelques jours d'intervalle, il y a un océan fantôme qui va déferler sur le monde et qui charrie dans ses vagues gigantesques les spectres de requins aux ailerons coupés, de phoques dépecés, de raimentas transpercés par des harpons. Or, il y a un petit problème, c'est que si un fantôme vous traverse, vous mourrez dans d'atroces souffrances puisqu'il vous arrache votre âme. Heureusement, notre héros, le jeune Oural, possède des pouvoirs psychiques qui lui permettent de créer un bouclier anti-fantôme autour de la forteresse. Autant dire qu'il est considéré à peu près comme un demi-dieu par sa communauté et que sans lui, ils se seraient tous fait bouffer par les piranhas depuis longtemps. Sauf qu'un jour, en plus des cadavres d'animaux, Oural voit déferler parmi les vagues de l'océan un navire fantôme, un navire pirate, avec à son bord une équipe de pirates qui l'enlève et qui condamne par là même toute la communauté à servir de pique-nique aux poissons.
Attends, attends, mais tu viens pas nous spoiler la fin là, j'espère.
Bah non, t'inquiète, c'est que le début, parce que bien sûr, Oural va se rendre compte que d'autres groupes ont survécu dans des conditions souvent abominables et inhumaines, et il va comprendre aussi, malgré la haine que lui inspirent les pirates, puisqu'ils sont condamnés à mort tous ceux qu'ils aimaient, eh bien qu'ils ont peut-être une bonne raison de tout décimer sur leur passage et qu'il serait peut-être judicieux de les aider.
Alors comme je disais tout à l'heure, tu avais déjà parlé l'année dernière d'un roman d'Aurélie Wallenstein, mais c'était de la fantasy. Cette fois-ci, c'est plutôt un récit post-apocalyptique. Est-ce que tu as quand même retrouvé la patte de l'autrice ?
Oui, complètement, puisque comme dans les autres romans d'Aurélie Wallenstein, on a une narration qui est resserrée sur un laps de temps assez court, avec des personnages qui suivent une trajectoire linéaire qui se précipite vers un objectif final, ce qui va faire monter la tension crescendo. Donc on suit le trajet d'Oural et des pirates jusqu'à leur but, que je ne vais pas vous révéler, parce que l'endroit où ils vont et ce qu'ils espèrent y trouver, c'est une des révélations du récit. On retrouve aussi le thème du lien entre l'homme et l'animal, qui est cher à l'autrice, et qui ici prend l'aspect à la fois d'un appel au secours de la part du monde animal et vraiment d'une rage vengeresse. Le roman transmet ce double sentiment qu'on peut nous-mêmes avoir face à notre environnement qui meurt, c'est-à-dire à la fois l'urgence d'alerter et d'agir avant qu'il soit trop tard, et une colère sourde face à l'égoïsme et à la cruauté humaine. Et dans ce roman, je pense qu'Aurélie Wallenstein a voulu alimenter cette colère et ce dégoût chez son lecteur pour déclencher une prise de conscience et une mise en action. Pour ça, elle utilise un procédé, elle nous plonge dans les rêves, ou plutôt dans les cauchemars, d'animaux fantômes qui se rappellent les sévices qu'on leur a infligés. Ailerons tranchés à vif, étranglement dans les filets de pêche, rien ne nous est épargné. Et ces scènes peuvent être dures à supporter, c'est vrai. D'ailleurs, elle avait dit en interview que son éditrice avait proposé qu'on les coupe. Mais elle a tenu à les laisser. Et en fait, c'est vrai qu'elles permettent d'incarner et de rendre sensibles des faits qui autrement resteraient dans notre esprit comme de simples chiffres.
Alors, puisqu'on est bien parti là, donne-nous justement quelques chiffres, histoire de bien nous faire déprimer.
Ok, alors j'en ai trois. 15 minutes, c'est le temps pendant lequel un poisson reste conscient alors qu'il est asphyxié, gelé ou écrasé, vivant, après avoir été pêché. On a environ 300 000 cétacés, donc baleines, dauphins, marsouins, qui meurent chaque année dans les prises accessoires, c'est-à-dire qu'ils sont pêchés par erreur avec d'autres poissons, sans compter les oiseaux, les phoques, les tortues, etc., qui meurent à peu près de la même manière à cause des filets. Dernier chiffre, pêcher pour le plaisir et remettre un poisson à l'eau, eh bien ça aboutit à la mort du poisson dans 43% des cas. Et en fait, à cause de la décompression, les poissons qui sont arrachés au fond marin peuvent avoir les yeux qui sortent des orbites ou les organes internes qui sortent par la bouche. Donc je crois que vous commencez à imaginer un peu plus précisément à quoi ressemblent les poissons fantômes du roman. Et d'ailleurs, allez, un quatrième chiffre un peu plus optimiste celui-ci. L'autrice reverse 10% des droits perçus sur le roman Mer Morte à l'association Sea Shepherds, qui œuvre pour préserver les océans et éviter que ce cauchemar ne devienne notre réalité.
Eh bien, merci beaucoup Christelle. Mer Morte d'Aurélie Wallenstein, c'était chez Scrinéo. J'ai une dernière question avant qu'on passe à la suite. À partir de quel âge du coup ce roman ? Parce qu'il allait un peu...
Moi je dirais à partir de 14-15 ans. Parce que les ados sont très investis dans ces causes-là et je pense que ça peut leur parler.
C'est sûr, très bien. Et puis c'est sûr, ils sont... Enfin, les romans d'Aurélie Wallenstein, moi en général je les adore, donc vous pouvez y aller sans crainte. On va maintenant retrouver Fabrice Collin pour le petit jeu que nous réservons toujours à notre invité. On se retrouve donc pour la deuxième partie de l'interview, donc je suis toujours avec Fabrice Collin, merci d'être toujours là.
Ouais, je ne suis pas partie.
Pour donc le petit jeu qu'on réserve toujours à nos invités. Du coup là je me suis dit que j'allais en fait... tirer, on va dire, du roman, La Bonne Aventure, quelques expressions, quelques noms, tous les noms de places, toutes les choses un peu amusantes que tu as mises dedans, ouais. Qui sont dans ce fameux Paris décalé.
Ouais.
Et donc l'idée, c'est un peu de voir si c'est une réalité ou une fiction, et ouais. D'où ça vient, en fait. Parce ouais. Que souvent, il y a des choses qui viennent quand même, je pense, de quelque part.
Ouais, d'accord.
Donc voilà. Est-ce que tu es prêt ?
Allez.
Alors, il y en a certains, bon, je suis moins sûre. Il y a une rue Wolfgang à Paris, par exemple.
Ouais.
Est-ce que ça, c'est vrai ou pas?
Je crois pas.
Moi non plus, je pense pas. Et est-ce que ça vient de quelque chose en particulier?
Non, il me semble pas. Alors, effectivement, hein, bah, c'est un peu la suite de la conversation de tout à l'heure. Je pense qu'il y a des choses qui sont le fruit vraiment d'une volonté spécifique de dire quelque chose, de faire référence. Et puis, des fois, c'est juste un nom qui vient comme ça. Donc là, je pense que c'est plutôt ça, quoi.
Nous avons également un toboggan qui descend la butte Montmartre.
Ouais.
Alors ça, c'est vrai ou pas?
Pas que je sache, ça serait bien.
L'hiver, peut-être.
Ouais, peut-être. Oui, il y a des... J'ai déjà vu des gens descendre des trucs en luge, enfin, les rares fois où il y a de la neige. Mais bon, j'ai un lien particulier à la butte Montmartre parce que c'était là où habitait l'oncle de ma femme, qui était un gars que j'aimais beaucoup et il habitait vraiment sur la butte, quoi. Et au bord des escaliers qui sont assez, assez, assez raides. Et quand on allait souvent le voir, je ne sais pas pourquoi, l'hiver, donc il faisait toujours nuit quand on y allait. Et je trouve ça extrêmement... Enfin, en termes d'imaginaire, c'est un endroit très frappant, la nuit. En plus, quand on sort, quoi, à minuit, etc., les escaliers, la pluie, etc., il n'y a personne. Un lieu très, très onirique, pour le coup.
Il y a également un cinéma qui s'appelle le Kino Majestic.
Alors, à Bastille, il y a un cinéma qui s'appelle Le Majestic. Mm-hmm. Et c'est le nom de pas mal de vieux cinémas mythiques. Je me demande s'il n'y a pas un film qui porte ce nom-là. Enfin, c'est... Voilà. Il y a beaucoup de... Majestic, c'est un nom de cinéma. Là, pour le coup, il n'est pas là où je dis qu'il est. Mais c'est un peu ça dans l'esprit. Et j'aime beaucoup ces vieux cinémas parisiens qui font notre fierté, quoi.
Il y a un roman qui s'appelle « Pour en finir avec la famille ». Alors ça, a priori, ce n'est pas un vrai roman.
Non, ce n'est pas un vrai roman. C'est pas un vrai roman. Mais il y a un roman, par contre, de Douglas Copeland qui s'appelle « Toutes les familles sont psychotiques ». Bon, ce n'est pas vraiment ça. Là, ça servait aussi par rapport au personnage et par rapport au comique de la situation. Quand vous arrivez, c'est ce bouquin-là que vous voulez emprunter. Bon, ça dit quelque chose déjà peut-être sur vous. Mais non, c'est une pure invention.
J'ai également découvert néanmoins que c'était le titre d'un hors-série de Charlie Hebdo.
Intéressant. Comme quoi, tu vois, l'inconscient.
Il y a également un auteur qui s'appelle Alphonse Durable.
Ouais.
Alors lui, il existe ou pas?
Non, il n'existe pas, non. Non, non.
Non plus.
Ouais.
Il y a une ville qui s'appelle Sophiapolis.
Ouais. Oh bah c'est le sud, quoi. Sophia, la sagesse, tout ça. Mais c'est une espèce de mégalopole qu'on peut imaginer. Alors Sophia Antipolis, voilà. Mais là, c'est Sophiapolis, tout quoi. Voilà.
Il y a une boisson que l'on peut déguster qui s'appelle le rhum nuage. As-tu non. déjà goûté?
Non, mais il faut dire, et ça c'est vraiment un truc qui me revient maintenant, et c'est très drôle, que moi quand j'étais étudiant, j'ai fréquenté un bar près du Panthéon, qui a vraiment eu son heure de gloire dans les années 70-80, mais qui était encore bien debout dans les années 90 et qui existe toujours, mais qui n'a plus rien à voir avec ce qu'il était, dans lequel il servait 300 cocktails différents. Wow. Il existe toujours ce bar, mais les 300 cocktails sont beaucoup moins bons qu'avant, parce que maintenant, il y a une espèce de réglementation débile sur l'alcool, et de toute façon, les trucs sont plus chargés du tout, donc vous pouvez boire 2-3 cocktails là-bas, ça ira très bien, alors qu'à l'époque, on en buvait un, on était ivre, on en buvait deux, c'était légendaire, et trois, personne n'a jamais fait. Et ce bar, ce qui est très marrant, c'est qu'il s'appelait le Crocodile.
Ah, ouais. Tout est lié. Mmh. Il y a dans le roman, il est question d'un film au cinéma et de la guerre des Carpates. Et alors ça, a priori, c'est vrai ou faux? Est-ce que tu...
Ben, moi, ça ne me rappelle rien, mais tu as trouvé quelque chose?
Ouais, j'ai trouvé. Enfin, d'accord. En tout cas, c'est des montagnes. Moi, je ne savais même pas, les Carpates, en fait, ça, oui, que c'était sûr. Des montagnes.
Oui, non, mais ça, ouais. Si, c'est les montagnes, il y a Dracula, quoi.
Ah, voilà. Ben voilà, ouais. Je découvre des choses. Et ben, apparemment, il y a eu... oui, enfin, il y a eu des guerres. Il y a forcément guerre, tu vois, ouais, c'est bon. Ça, il y a un président Jules Verne.
Oh bah ça c'est le fantasme des amateurs de steampunk, quoi. C'est-à-dire que Jules Verne étant un peu le papa de la science-fiction française et ses romans et ses aventures ayant nourri l'imaginaire de tout bon amateur de steampunk, c'est presque voilà, c'est le président qu'on aurait voulu avoir. C'est le gars qui va mettre des dirigeables dans le ciel, qui va faire des tours bizarres et tout, quoi.
Exactement. Il a d'ailleurs également un rôle politique dans Les Mystères de l'Arispem de Lucie Pirapajot qu'on avait reçu pour l'émission sur Paris.
Ah bon, bah alors voilà.
Il y a un théâtre qui s'appelle le Théâtre des Effluves. Je ne pense pas que ça soit un
vrai théâtre. Non, ce n'est pas un vrai théâtre, non. Non, non. Mais voilà,
sonnait bien.
Le nom est comme ça. Ouais.
Et enfin, il y a le naufrage du gigantique.
Ouais. Ah bah, alors il y a eu le Titanic, bon là c'est gigantique, mais il faut savoir que la White Star Line et la Cunard, qui étaient les deux grandes compagnies maritimes qui opéraient les liaisons transatlantiques, avaient pas mal de bateaux comme ça. Il y a eu Titanic, je sais plus, enfin ils avaient tous des noms de géants, de trucs, des trucs qui finissaient par ic, donc bon, gigantique, c'est aussi le titre d'une chanson des Pixies que j'aime bien, voilà.
C'est ça, incroyable. Et en fait, c'est un bateau, effectivement. Moi, j'ai été regarder.
Ouais.
C'est le premier nom d'un bateau qui, à la base, s'appelait qui maintenant s'appelle le Britannique, qui a coulé. Et c'est la plus grande épave du monde.
Ah, bah voilà, bah, tu vois, je sais.
Incroyable.
Même pas. Ouais. Mais c'est super d'être attrapé par son inconscient. Voire par son rien du tout.
Moi, j'ai appris plein de trucs.
Des trucs qu'on ne savait pas. Voilà.
Eh ben, merci beaucoup pour ce petit jeu.
Merci.
J'ai une dernière question pour finir. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur tes projets à venir ? Alors, il y a La Bonne Aventure qui est nominée pour le prix vendredi.
Ouais.
Alors, on croise les doigts.
Ouais.
Et est-ce que tu as des prochains livres à paraître ? Ben, j'imagine. Ou sur quoi est-ce que tu travailles en ce moment ?
Alors, bon, il y en a un qui paraît. Bon, c'est le hasard du calendrier, mais c'est vrai qu'il paraît dans un mois, à peu près un peu plus d'un mois. Qui est un peu dans la veine de ce que j'avais fait sur l'enfance de Simone Veil. Et là, c'est l'enfance d'une autre figure, un petit peu à l'opposé de Simone Veil, parce que c'est Marilyn Monroe. Donc, c'est un bouquin qui va apparaître chez Albin Michel, consacré à l'enfance et l'adolescence de Marilyn Monroe, et qui s'arrête quand Norma Jean, parce que c'était son vrai nom, devient Marilyn Monroe, quoi. Donc, ça s'arrête quand commence sa carrière d'actrice. Il y a un certain nombre d'autres livres en projet, même pas mal. Mais bon, il n'y aura rien d'autre qui sortira avant la fin de l'année. Il y a quelque chose qui est en projet chez Talon Haut. Pour l'instant, on est au stade de la réflexion, de l'ébauche, de la rêverie, qui est souvent le meilleur moment de l'élaboration d'un livre.
Super, et on va suivre ça avec attention. Merci beaucoup Fabrice d'être venu nous voir.
Merci de m'avoir reçu.
Et bien donc La Bonne Aventure, c'est un roman très tendre, une histoire d'amour touchante. Au milieu de tous les ouvrages d'aventure, de fantasy, La Belle Aventure justement est une respiration, l'occasion de réfléchir à ce qui nous effraie et d'oser vivre ses rêves plutôt que de les contempler. La Bonne Aventure, c'est donc de Fabrice Collin et c'est aux éditions Talent Haut.
La bouquinerie jeunesse, un dimanche sur quatre. Sur Radio Campus Paris.
Et si vous n'avez pas encore lu La Bonne Aventure de Fabrice Collin, eh bien sachez que vous allez peut-être pouvoir le gagner. Et oui, on vous offre un exemplaire dédicacé par l'auteur. Pour peut-être tenter de gagner votre exemplaire, vous pouvez partager le concours. Donc vous pouvez aller voir sur la bouquinerie jeunesse, sur Instagram, Twitter ou Facebook. Marion vous mettra le concours sur un des trois réseaux. On va maintenant parler rêve dans les albums avec Léa qui nous parle d'un album qui s'appelle Fleurs de grand frère.
Les Fleurs de grand frère, tout à fait, de Gaëlle Genillet qui est paru chez Delcourt. Alors ce soir, je suis ravie de vous parler de cet album donc, qui est sorti en février de cette année et que j'ai adoré. En fait, ça fait des mois que j'attends le thème propice pour vous le présenter. Et quand nous sommes tombés d'accord sur l'onirisme, j'ai crié « bingo !» En fait, il se trouve que je suis Gaëlle Genillet, son autrice, donc, depuis plusieurs années sur les réseaux sociaux et que je suis folle de son univers et de ses dessins. Elle place la nature, la famille et la tranche de vie au centre des thèmes de ce qu'elle produit, mais toujours avec énormément d'originalité et de poésie.
Alors, la nature et la famille, effectivement, ça semble au cœur du récit, vu son titre.
Tout à fait. Et ses petits frères, le personnage qui nous raconte cette histoire, contrairement à ce que le titre, Les Fleurs de grand frère, pourrait nous faire penser. Petit frère se réveille un matin de printemps pour trouver son aîné en larmes dans le grand lit de leurs parents. Pendant la nuit, deux étranges tiges pleines de feuilles et de fleurs ont poussé de chaque côté de sa tête comme une sorte de couronne ou de corne. Pourquoi ? C'est un mystère. Sa première réaction à grand frère, c'est de les couper. Mais voilà, ces fleurs sont mystérieuses et vraiment très jolies. Petit frère, papa et maman l'en assurent. Ça va peut-être être dur, difficile de les accepter dans un premier temps. Mais ce serait tellement dommage de les couper. Passer les premières angoisses, vont-elles le recouvrir tout entier? Va-t-on se moquer de lui à l'école? Vient l'émerveillement. Ses petites fleurs brillent la nuit pour le rassurer et lui murmurent des chansons que lui seul peut entendre. Passe donc l'été et l'automne au rythme de son étrange floraison. Puis, avec les héros, on se demande peu à peu, mais que va-t-il se passer pour ces fleurs une fois l'hiver venu?
Mais attends, personne ne pense à l'emmener chez le médecin, cet enfant, hein? Non, non, je rigole bien sûr, mais on est là dans une sorte de réalisme magique qui est assez éloigné de notre banale réalité.
Tout à fait, et c'est pour ça que cette histoire colle au thème de l'onirisme. Petit frère et grand frère sont deux adorables garçons. Grandes boucles brunes, yeux bleus, taches de rousseur. Ils s'occupent en se baladant dans la forêt, en faisant des jeux de société avec leurs parents et en lisant. Des occupations qui sont traditionnellement associées à l'enfance, mais pas spécialement à notre enfance moderne, remplie de technologies, d'activités extrascolaires et de modes de cours de récré. On ne sait pas très bien où ni quand on est dans ce récit. Le dessin incroyable de Gaëlle Genillet participe également à ce flou poétique. Ses traits sont fins et délicats, ses couleurs pastels et les détails foisonnent. L'accent est particulièrement mis sur les ambiances dans ses planches, sur les saisons qui rythment le récit et reflètent toujours l'état émotionnel de ses personnages. Pendant les cauchemars de grand frère, par exemple, ses fleurs grossissent au point de l'étouffer et les planches sont un inquiétant rouge sombre. Comme un motif, on retrouve d'ailleurs ces fleurs partout dans les décors, sur les murs, dans les jardins, dans des pots. Comme sur la tête du personnage, elles colonisent peu à peu le récit.
Et elles poussent peu à peu dans la tête du lecteur qui finit par se demander « Mais pourquoi est-ce qu'elles sont là ?»
Et oui, les fleurs juchées sur la tête de notre petit héros sont banales. Il s'agit juste de quelques tiges, de feuilles vertes, de pompons rose pâle, de la même couleur que celle de sa peau. Elles sont bien entendu la métaphore de quelque chose dans le récit. Mais quoi exactement? Est-ce la différence? La maladie? Le passage de l'enfance à l'adolescence? Pas de morale ou d'explication. Et c'est vraiment ce que j'ai le plus apprécié dans cette BD. C'est au lecteur de faire le lien avec sa propre histoire et d'en décider. Les fleurs reflètent les émotions du personnage de manière toujours très poétique. Ses joies, ses angoisses et bien sûr son rapport au monde. Il a peur d'être jugé à cause d'elle à l'école, mais il est également fier qu'elle le rende différent, par exemple.
Oui, finalement, dans cet album que j'ai lu aussi, j'ai trouvé que tout le monde était toujours très bienveillant avec lui. Ses angoisses, elles viennent plutôt de l'intérieur de lui-même, en fait, un peu comme les fleurs.
Tout à fait. Et par rapport à ça, il y a un autre détail dans la BD qui m'a marqué, c'est que les personnages n'ont pas de nom. Il y a Petit Frère, notre narrateur, qui décrit au fil des saisons les changements de son aîné. Il y a donc Grand Frère qui se débat entre joie, angoisse et sérénité avec ses petites fleurs. Il y a également leurs parents, leurs grands-parents. L'absence de nom permet, à mon sens, l'identification à ces figures qui ne cessent jamais d'être optimistes et de se supporter mutuellement par des petits mots ou des petits gestes subtils et tendres. Pas étonnant donc que l'autrice ait dédié cet album à sa famille qui a en elle les plus belles fleurs du monde, comme elle le dit dans le petit mot de dédicace. Je crois que c'est ce qui m'a le plus touchée en fait dans cet album, sans jamais que le message ne soit grossièrement appuyé. C'est par l'amour, l'optimisme et la curiosité dont on entoure ses proches et dont on s'entoure soi-même que tous les changements dans la vie sont les bienvenus.
Oui. Les fleurs de grand frère, c'est donc une BD de Gaëlle Genillet et c'est aux éditions Delcourt. Et voilà, donc l'émission est maintenant terminée. N'oubliez pas que vous pouvez nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Merci encore à Fabrice Collin d'être venu nous voir pour son roman La Bonne Aventure aux éditions Talent Haut. Merci à toute l'équipe, à Marion, à Margot qui nous a aidé à réaliser l'émission, à Radio Campus bien sûr de nous laisser l'antenne pour cette nouvelle saison. Et je vous quitte avec une citation très courte mais que j'ai trouvée pertinente, qui est d'un album qui s'appelle Une petite voix de Patrick-Olivier Meyer. Et ça dit simplement « C'était important de croire à quelque chose ».